Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Thomas Hugues.
RTL, il est 7h42. Merci de nous écouter, merci d'écouter la matinale d'RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général Richard Lizuret.
Et on est ravis de vous recevoir ce matin dans ce studio d'RTL. Bonjour général Lizuret.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes à la tête d'une institution dont vous dites vous-même qu'elle est un ovni administratif, parce que c'est une institution militaire rattachée au ministère de l'Intérieur depuis 10 ans. On y reviendra tout à l'heure. Rappelez-nous combien d'hommes et de femmes ?
Alors, 130 000 personnels d'actifs et de réserves.
Donc, ça fait une belle constitution, une belle institution. 130 000 personnes. Combien vont défiler, d'ailleurs, dimanche 14 juillet sur les Champs-Élysées ?
Alors, dimanche, nous avons effectivement des gens qui vont participer au défilé. Donc, on aura à peu près 600 à 700 gendarmes qui vont défiler dans différentes catégories. Mais on a également tous les gendarmes qui vont participer à la sécurisation de l'événement sous l'autorité du préfet de police et en liaison avec nos camarades de la police nationale.
Le défilé lui-même, ce rite militaire qui est un hommage des militaires à la nation, est-ce que c'est la routine pour vos hommes, pour vos femmes, ou ça reste un moment, un événement important ?
Alors c'est à la fois la routine, parce que depuis la Troisième République, en fait, ça a été mis en place en 1880, effectivement, en l'honneur... je dirais des armées, mais c'est aussi un moment festif, puisque notamment le soir, il y a un certain nombre de balles qui ont lieu. Et c'est aussi un événement exceptionnel pour chacune et chacun qui y participe, parce que être sur les Champs-Élysées, défiler sur les Champs-Élysées, ce n'est pas anodin. C'est un événement dans une carrière, c'est une préparation. Depuis maintenant une semaine, les personnels se préparent. Et c'est un moment où effectivement la nation se reconnaît et les militaires se reconnaissent dans la nation. Et les militaires, au-delà, l'ensemble des services publics qui participent au défilé.
Et puis c'est un moment de fierté, j'imagine.
Et c'est un moment de fierté, alors c'est pour ça que, effectivement, c'est aussi un événement familial. Beaucoup de familles, de personnels qui participent au défilé seront présentes. Et c'est vraiment un moment de rassemblement, effectivement, autour de valeurs communes, autour de la nation, autour de cette cohésion nationale qui, à mon avis, doit s'exprimer et s'exprime le 14 juillet.
Alors, vos missions de sécurisation, c'est tout le temps. C'est le 14 juillet, c'est le Tour de France. On en parlait ensemble juste avant d'entrer dans le studio. Votre prochaine grosse mission de sécurisation, ce sera le G7 aussi, à Biarritz, 24, 25, 26 août. Biarritz qui sera la ville la plus sanctuarisée du monde, j'imagine, à ce moment-là. Combien de personnes, là encore, seront mobilisées sur cet événement ? Et puis, quel type de crainte vous avez dans ces cas-là, quand le monde entier se concentre dans une ville de province ?
Le G7 est un moment effectivement exceptionnel, parce que c'est aussi l'image de la France à l'étranger. On rassemble des chefs d'État importants, et c'est essentiel, évidemment, d'assurer la sécurité, à la fois de ceux qui participent à cet événement, mais aussi de continuer à assurer la sécurité de l'ensemble de la population de la région et du Sud-Ouest. C'est pour ça que donc, nous travaillons actuellement au sein du ministère de l'Intérieur, sous l'égide du ministre, qui est allé à Biarritz il y a quelques jours, pour préparer cet événement. Alors, combien de personnels vont y participer à ce stade ? On n'a pas eu d'idée exacte du chiffre, mais évidemment, ce sera une mobilisation générale, une mobilisation d'ampleur, une mobilisation exceptionnelle. Parce qu'il nous faut vraiment assurer la sécurité à la fois des participants, mais aussi de l'ensemble des citoyens et des citoyennes qui habitent la région et qui continuent à vivre
normalement. Oui, parce qu'il y a d'autres villes qui vont être impactées, mais c'est vrai que ce sont des moments où se concentrent aussi des contestations. On l'a vu dans le passé sur les G7, hein, les Black Blocs, les anti-G7. Encore une fois, la nature des craintes que vous avez, l'antiterrorisme, évidemment, c'est permanent, et puis...
Les craintes, donc, comme vous l'avez signalé, le terrorisme, c'est une crainte constante aujourd'hui, mais c'est aussi les appels qui ont déjà été passés par un certain nombre d'organisations, un certain nombre de structures, altermondialistes, anarchistes, diverses et variées, et qui souhaitent organiser un contre-sommet pour montrer leur désapprobation. Alors, ce contre-sommet va évidemment s'organiser là aussi dans une perspective de sécurité. C'est notre travail de sécuriser les manifestations, de sécuriser ce type d'événement. Mais bien entendu, ça pourra donner lieu à des violences qui seront nécessairement réprimées et que nous essaierons d'éviter au maximum.
Et que vous essayez d'anticiper et auxquelles vous préparez déjà. C'est pas simple cette année, parce que c'est vrai que les forces de l'ordre sont sorties épuisées des week-ends d'affrontements successifs face avec des gilets jaunes violents. C'est plus calme depuis quelques semaines, mais qu'est-ce que ça a laissé comme trace ?
D'abord, ça a amené effectivement à nous interroger sur le modèle de maintien de l'ordre. C'est tout le travail qui a été lancé par le ministre du schéma national de maintien de l'ordre, une réflexion sur le maintien de l'ordre. Donc finalement, c'est aussi des enseignements à tirer de ces événements.
Ils ne l'ont pas encore été ?
C'est en cours, on en a déjà tiré un certain nombre, c'est-à-dire qu'effectivement, plus de mobilité, plus de fluidité dans le commandement, plus de déconcentration dans le commandement aussi, des choses qui ont déjà été mises en place. Ça n'empêche pas de continuer à réfléchir avec un certain nombre d'universitaires.
Ce que vous nous dites, c'est que la doctrine doit encore être, formalisée.
Ce n'est pas la doctrine qui va changer, c'est le mode d'action qui va changer. La doctrine, c'est toujours, évidemment, le respect de l'autorité civile, la mise en place et la tenir à distance les manifestants, assurer la sécurité des événements. En revanche, c'est les modes d'action qui vont évoluer et qui ont évolué. Et donc, les Gilets jaunes nous ont effectivement conduit à réfléchir, finalement, sur nos modes d'action pour les faire évoluer, pour être encore plus efficaces pour la protection de nos concitoyens.
Un petit mot d'une controverse qui est forte, hein, c'est sur l'usage des LBD, ces armes de défense. D'ailleurs, est-ce que, pour revenir à... Il y a eu 1900 gendarmes et policiers blessés pendant ces manifestations.
Oui,
combien de gendarmes en particulier?
Nous avons 550 gendarmes blessés, à des degrés divers. Ça montre la violence, finalement, que les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ont subie. Cette violence a été constante depuis le début, et il a fallu évidemment que les personnels puissent se défendre.
Et il y a aussi des violences policières. Des violences illégitimes de la part des forces de l'ordre. Mais il y a une question que je ne m'explique pas, c'est que j'ai cru comprendre que, par exemple, les gendarmes ont tiré 10 fois moins de LBD que les policiers. Pourquoi ? Pourquoi une telle différence ?
Je pense que c'est, si je puis me permettre, ce n'est pas la bonne approche. Ce n'est pas les gendarmes et les policiers. Il y a des troupes qui sont formées pour faire du maintien de l'ordre et des troupes qui ne sont pas formées pour faire du maintien de l'ordre. Les tirs de LBD visent à répondre à des agressions. Ce ne sont pas des tirs a priori, c'est des tirs qui font l'objet d'agressions. Et effectivement, en fonction de la troupe qui est agressée, la troupe réagit. L'objectif,
vous voulez dire que les gendarmes étaient moins en première ligne que les policiers? Donc ils ont eu moins à se défendre?
Non, pas du tout. Je vous dis simplement qu'il y a des forces qui sont spécialisées en maintien de l'ordre. C'est les gendarmes mobiles et les CRS, qui globalement ont tiré le même nombre de munitions. Et d'autres troupes, d'autres forces qui n'ont pas forcément la même formation et qui, effectivement, ont utilisé le dispositif de manière différente.
Combien d'enquêtes ont été ouvertes sur des gendarmes qui se seraient livrés à des violences que vous dites, encore une fois, illégitimes?
Alors, nous avons eu aujourd'hui une quinzaine de saisines de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, dont 8 pour des tirs de LBD. Une enquête a déjà été clôturée sans suite, et le reste des investigations se poursuit de manière à déterminer effectivement les circonstances dans lesquelles le gendarme a été amené à tirer.
Le procureur de Paris, Rémy Hetz, a dit que certains policiers seront renvoyés en correctionnel dans le cadre de ces enquêtes d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il y a aussi des gendarmes ?
La justice le dira. Je pense qu'aujourd'hui, il faut attendre le résultat justement des investigations. C'est tout le travail de l'inspection générale qui, lorsqu'elle aura fini ses investigations, remettra les dossiers à l'autorité judiciaire qui jugera, elle, de l'opportunité de poursuivre ou pas.
Vous ne m'avez pas dit les LBD, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une arme dangereuse? Elle est contestée, elle est controversée?
Toutes les armes sont potentiellement dangereuses. Ce qui est important, c'est de savoir à quoi elles servent. Le LBD sert à répondre à une agression. Un fonctionnaire ou un militaire qui utilise le LBD, il ne le fait pas par gaieté de cœur, il le fait parce qu'il est agressé à un moment donné.
Mais est-ce qu'il le fait correctement? Pardon. Est-ce que, par exemple, il y a la formation nécessaire?
Mais
est-ce
j'observe que dans la majorité.
Correctement les armes LBD.
Dans la majorité des cas, aujourd'hui, il n'y a pas de décision judiciaire qui met en exergue une mauvaise utilisation du LBD. C'est pour ça que je pense qu'il faut attendre le résultat des investigations judiciaires, de la totalité des enquêtes qui sont actuellement conduites, pour avoir un avis définitif. Je pense que, globalement, lorsqu'on regarde les décisions, à ce stade, en tout cas, il n'y a pas de mise en cause directe d'une mauvaise utilisation par quelque fonctionnaire ou militaire que ce soit.
Donc il n'y a pas de questions à se poser.
Il y a des questions à se poser, mais c'est la justice qui doit trancher, c'est la justice qui doit dire, effectivement, si la violence était légitime ou illégitime. Cette violence répondant toujours à une agression.
Il y a un autre enjeu de formation très fort, Général Lizurey, c'est le recueil des plaintes des femmes battues. 121 femmes encore tuées en 2018, donc une femme morte sous les coups de son conjoint tous les 2 jours et demi, c'est un chiffre qui ne baisse pas, c'est un chiffre absolument scandaleux. Des femmes trop nombreuses dénoncent l'accueil qui leur est fait dans les commissariats et gendarmeries. Par exemple, le Figaro vous lit ce témoignage. Mars dernier, Gabrielle, menacée par le père de sa petite-fille, elle va voir les gendarmes qui lui disent « Tant qu'il n'est pas venu vous agresser, sous nos yeux, on ne bougera pas, madame ».
Alors, c'est une réaction qui n'est pas normale, très clairement, il faut le reconnaître. C'est tout le travail qu'on fait depuis 2017. Depuis 2017, novembre, j'ai donné des directives très claires pour la prise en compte de ce fléau, parce que c'est important de s'y intéresser à la fois en termes d'accueil, et vous l'avez signalé, il y a des choses sur lesquelles il faut travailler, parce que ce n'est pas normal. Il y a un accueil personnalisé, un accueil confidentiel à organiser. Il y a donc une formation de nos personnels, formation qui est mise en place, qui va se poursuivre en liaison avec, bien entendu, la police nationale, mais aussi la justice, parce que tout ça, c'est un travail partenarial. Nous avons également les associations de victimes qui contribuent à la formation de nos personnels, qui interviennent dans les écoles. Et à partir de septembre 2019, nous allons avoir un dispositif de mise en situation, justement, qui va impliquer la totalité des forces de l'ordre et des partenaires.
Vous comprenez l'urgence ? Parce que 121, c'est un chiffre qui est stable, c'est incompréhensible.
Je comprends l'urgence, je la partage, et effectivement, lorsqu'il y a des dysfonctionnements, et typiquement ce que vous avez signalé était un dysfonctionnement, il nous faut y remédier, parce que c'est important de traduire dans les faits cette priorité nationale.
Et un accueil, comme vous dites, personnalisé, adapté, c'est quoi ? C'est l'accueil de la personne dans un endroit particulier. C'est pas par exemple, ça n'est pas facile pour une femme battue de porter plainte comme ça à un guichet avec plusieurs hommes et femmes qui écoutent et qui font autre chose. Ça, par exemple, c'est compliqué.
C'est compliqué. C'est la raison pour laquelle, depuis novembre l'an dernier, nous avons mis en place au sein du ministère de l'Intérieur un portail Internet des violences sexuelles et sexistes, lancé par le ministre. Depuis, il y a eu un certain nombre de signalements. Ce portail, il est géré par la brigade numérique de la gendarmerie nationale, qui se trouve à Rennes, et qui permet justement à chaque femme qui est agressée ou qui est en difficulté de s'adresser finalement par l'intermédiaire de l'Internet à un service de gendarmerie. Ensuite, on lui définit un rendez-vous. Et ce rendez-vous, il peut se faire très discrètement dans n'importe quel endroit, pas forcément dans une gendarmerie. C'est important, cette mobilité également, avec les outils technologiques dont nous disposons, nous pouvons nous déplacer pour aller voir les personnes victimes là
qui appellent
où elles
à l'aide,
le souhaitent. Appellent à l'aide, absolument.
Et plus vite. Il y a parfois des décisions qui conduisent des hommes à être condamnés à porter un bracelet électronique dans cette affaire. Il y a des enjeux de géolocalisation. Est-ce que vous êtes suffisamment équipé ?
Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui, à mon avis, doit être amélioré, mais c'est la responsabilité du
ministère de la Justice. Donc pour l'instant, le compte n'y est pas.
C'est pas que le compte n'y est pas, c'est qu'à un moment donné, ce sont des décisions de justice qui déterminent le fait qu'une personne soit sous bracelet électronique, et le suivi est assuré effectivement par les autorités judiciaires.
Donc il y a encore un peu de progrès à faire en termes d'équipement de ce point de vue-là, c'est ce que je comprends.
Le fait même qu'il y ait 121 femmes qui soient tuées montre que nous avons des progrès à faire.
Un rapport parlementaire, justement, publié ce mercredi sur le quotidien des gendarmes et des policiers, dénonce la vétusté des bâtiments. Bon, 80% des casernes ont plus de 50 ans, par exemple. Le manque de moyens logistiques et au-delà, un malaise assez diffus. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais justement, on continue d'en parler, c'est que le problème demeure. Et peut-être même se dégrader. Est-ce que les conditions de travail sont de plus en plus pesantes pour vos hommes et vos femmes ?
Les conditions de travail sont difficiles. Les infrastructures, vous l'avez signalé, doivent être renouvelées. C'est tout le travail qui est fait dans le cadre du travail budgétaire. Donc, nous avons depuis quelques années...
Vous avez suffisamment de moyens, votre avis ?
Un effort important est fait pour...
Suffisant ?
Suffisant, c'est jamais suffisant, bien entendu. Mais il nous faut assurer cet effort dans la durée. Je crois que c'est la régularité et la durée qui sont les clés du succès, plutôt que la masse à l'instant donné. Et les conditions de travail, c'est aussi... le travail quotidien, les tâches indues, un certain nombre de travaux effectivement prioritaires sur lesquels il faut donner du sens au travail du gendarme, valoriser son travail, l'accompagner. Le travail et l'état d'esprit, c'est à la fois des infrastructures, du matériel, mais c'est d'abord un état d'esprit. L'état d'esprit aujourd'hui des gendarmes, il est déterminé. Moi, j'ai des personnels qui sont engagés, qui sont disponibles, qui ont montré leur disponibilité. Je les remercie, je les félicite et je suis sûr et certain qu'ils vont continuer.
Départ en vacances, ça y est, un gros week-end. Vous les surveillez, les routes, général ?
Nous continuons à les surveiller.
Les radars ont été restaurés ou pas ?
Alors,
les
radars fixes ne dépendent pas de la gendarmerie nationale. Mais oui, bien sûr, le travail de prévention au profit de la sécurité de nos concitoyens va être continué. Parce que la présence du gendarme sur les routes, c'est d'abord une présence qui vise à assurer la sécurité des gens qui qui se déplacent. L'objectif, c'est moins de blessés, moins de morts et plus de vacanciers. C'est quand même ça, notre travail.
Merci beaucoup d'avoir été ce matin sur RTL. Bon été à vous, Général.
Vous
et
même.
D'ailleurs, bon été à tous les auditeurs d'RTL. Bonne journée.
Merci à tous les deux. Bonne Merci journée. Elisabeth et bravo pour toutes ces belles interviews politiques. Cette saison encore sur RTL. À très bientôt. Bel été à vous. On vous embrasse très fort.
Merci Thomas.